football avec Nabil Djellit de France Football, Grégory Schneider de Libération et Laurent Jaoui de Canal+. Nous allons évoquer l'Euro 2020 qui approche puisque l'équipe de France est en pleine phase de qualification. La qualification est toute proche. Il y a déjà quelques équipes qui se sont qualifiées pour cet Euro. Elles sont au nombre de trois, la Belgique, l'Italie et la Russie, qui devraient être rejoints par des équipes comme l'équipe de France ou comme l'équipe d'Allemagne qui mène en ce moment 3-0 en Estonie. Y a-t-il déjà un favori pour l'Euro 2020? C'est la question que l'on souhaitait se poser ce soir parce qu'on a la sensation qu'à moins d'un an de cette compétition qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes différentes, toutes les nations sont aujourd'hui quasiment à leur plénitude. L'équipe de France, vice-championne d'Europe et championne du monde. Les Pays-Bas, avec les nouvelles stars qui forment aujourd'hui cette équipe. Le Portugal, qui est champion d'Europe en titre et qui a toujours Cristiano Ronaldo. Les Allemands, qui sont toujours au rendez-vous. Les Italiens, déjà qualifiés avec un Mancini, qui disait hier « on est quasiment au niveau des meilleures équipes européennes ». L'Espagne, qui est toujours une équipe attendue.
Ouais, mais vous en oubliez
attendue.
Vous en oubliez un, Alban.
La Belgique.
Bah évidemment, la Belgique, pour moi, c'est le grand favori. 8 matchs, 8 victoires.
Il y a tellement d'équipes.
Oui, bien sûr.
Les Anglais,
toutes les équipes
les
que
Anglais
vous avez
également,
citées, légitimement peuvent aspirer à ce statut de favori.
Non, mais c'est un euro de fou qui,
se
prépare.
Oui, mais c'est
mieux que l'Eurovision, c'est sûr.
C'est un euro assez dense, ouais, bien sûr. Il semble tout de même que la Belgique dégage une cohésion supérieure à toutes les autres équipes, qu'elle puisse rebondir sur la déception, puisque c'est une vraie déception, c'est peut-être même un terme pas suffisamment fort, sur la déception de la Coupe du Monde 2018, ils sont très très impressionnants. Donc à votre question, de manière claire, je réponds en premier lieu la Belgique. Et ensuite, oui, bien sûr, toutes les équipes que vous avez citées, on peut revenir en détail sur chacune d'entre elles, ont leur chance. La Belgique me semble un tout petit peu au-dessus. Ça sera peut-être l'avènement de cette génération bénie. En tout cas, c'est la dernière chance pour cette génération-là.
Une seule défaite pour l'équipe de Belgique depuis la défaite face à l'équipe de France. C'était une défaite 5-2 contre l'équipe de Suisse.
Ouais, et 8 matchs,
lors de la fameuse Ligue des Nations.
8 matchs et 8 victoires en qualification. Et des joueurs détonnants et performants dans quasiment chaque ligne. Quoi.
Sur le papier, les deux meilleures équipes. Allez, si on pas là pour jouer à la PlayStation, mais si on doit s'amuser à faire les meilleurs 11, les deux équipes les plus puissantes individuellement, c'est la France et la Belgique, évidemment. Mais pour moi, la France est le favori de cette compétition, parce que c'est une équipe de tournoi. C'est une équipe également qui arrive avec un statut. Elle a été vice-championne d'Europe. Alors, je ne parle pas de la manière de jouer, je parle de manière factuelle des arguments qui peuvent corroborer cette thèse. C'est l'équipe qui est championne du monde. Elle a un sélectionneur national qui est un chef de bande, qui est suivi par tout un groupe. Elle s'appuie sur différentes manières de jouer. Elle est capable de défendre et de se projeter rapidement comme elle l'a fait à la Coupe du Monde. Mais c'est aussi une équipe qui est capable de tenir le ballon. C'est une équipe hybride. Et puis surtout, c'est une équipe qui a quand même un mental hors norme, qui était capable de retourner des situations comme face à l'Argentine. Donc on sent une plénitude chez cette équipe de France. Alors après, évidemment, l'état de forme disparate de certains, le contenu, la manière de jouer peut être à un moment un frein. Mais concrètement, si vous faites un sondage à l'étranger, mais pas en France, parce que nous, des fois, on est un peu plus... on est français, on est frondeurs, donc on cherche toujours peut-être parfois un petit peu trop la petite bête. Mais si vous allez en Angleterre, si vous allez en Espagne, si vous allez en Italie, si vous allez en Turquie, comme je suis parti en vacances il y a quelques temps, quelle est l'équipe qui impressionne et quels sont les joueurs qui impressionnent le plus? C'est les joueurs français. Donc, je pense que dans l'esprit de beaucoup, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nous, mais le favori, ça va être la France.
Grégory Schneider, est-ce qu'il y a une autre équipe qui vous semble, qui vous intéresse, qui titille votre imaginaire?
Moi, c'est pour avoir suivi et avoir été un peu dans le train bleu, les avoir suivis en Russie, quand on voit à quoi tient un match, très franchement, de donner un favori 7-8 mois avant, j'ai beaucoup de mal. Hein. Même Deschamps,
il voulait... Oui, on n'est pas forcément dans un jeu de prédiction.
Non,
mais,
non, mais alors, il y a 7 ou 8, oui. Moi, je mets les Russes, les Croates, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pas mal.
Les Russes, t'es gentil, là.
Ouais, non, mais non, ils sont quart de finaliste du dernier mondial. C'est toujours mieux que l'Espagne qui n'a pas passé deux tours d'une compétition depuis 2012.
Enfin, vaut mieux pas qu'ils croisent l'Espagne, les Russes. Je pense qu'ils ne feront pas le coup à chaque fois, parce que Piqué, il ne va pas faire une main à chaque fois dans cette surface.
Alors, je vais rappeler ce que je viens de dire, l'Espagne n'a pas passé deux tours dans une compétition depuis 2012. Donc, non, mais tout le monde les prend pour des rois, tout le monde les prend pour des cadors. Quand tu ne passes pas deux tours, tu ne passes pas deux tours. C'était nul en 2016. Moi, à un moment donné, les statuts, ça va. Alors, il y a les équipes qui gagnent, effectivement, les Bleus ont gagné. Le Portugal, on s'en débat de compète. Bon, les Pays-Bas, on se dit que de toute façon, quand ils ont une équipe à peu près, ils ont fait deux fois finaliste, ou demi-finaliste des Coupes du Monde, donc c'est correct. Mais je veux dire, on touille la soupe. Je ne suis pas sûr que les Anglais, par exemple, qui étaient demi-finalistes la dernière fois, aient une grosse équipe. La Suède, c'est typiquement le genre d'équipe que tout le monde ne voit pas venir et qui peut être dans le dernier carré comme rien. Et alors, je vais vous dire un truc, ça, on peut après regarder dans 9 mois ce qui se passera.
On enregistre ce que vous dites.
Surtout sur l'Espagne.
Le fait que ce soit dans 12 pays, ça va être bizarre. Non, mais ça va jeter.
Enfin, 12 villes.
Dans 12 pays.
12 pays différents.
Non, mais ça va. Nous, il y a des réflexes quand même de localisation. Ça va vraiment être étrange. Il y a beaucoup d'équipes qui joueront.
Ça va être de Bakou à Saint-Pétersbourg.
Voilà, mais ou à domicile. À Londres, ça va vraiment être compliqué. Pour les supporters, ça va être compliqué. Pour le soutien, ça va être bizarre. Moi, je pense qu'on va vivre une expérience un peu étrange. En tout cas, qui est capable de faire voler quelques repères. Voilà.
Alors vous parliez des Anglais, il faut rappeler que les demi-finales et finales auront lieu
en
Angleterre, à Wembley.
Ce qui peut in fine les aider, mais encore faut-il qu'ils y arrivent, ils ont perdu contre les Tchèques avant-hier. Les statuts, je trouve ça un petit peu étrange quand même.
Est-ce qu'une équipe comme l'Italie, par exemple, s'est qualifiée hier, qui est l'une des premières équipes à s'être qualifiée, alors de par le calendrier, ils ont joué les premiers, donc ils se qualifient les premiers.
C'est le deuxième du groupe, c'est la Finlande. Ça vous pose quand même un contexte. Ils n'ont pas un attaquant de classe mondiale.
Est-ce que Giroud, c'est un attaquant de classe mondiale? Est-ce qu'on a gagné avec un attaquant de classe mondiale?
T'as gagné avec Griezmann et Mbappé qui sont des attaquants de classe mondiale.
Ils ont d'autres qualités. Ils travaillent bien. Ils ont retrouvé un réservoir de joueurs alors qu'il y avait des doutes. On avait des doutes là-dessus. Barella, Sensi, Verratti commence un petit peu à tirer la quintessence de son talent en sélection. Franchement, ensuite, Chiellini n'est pas là, mais ils ont quand même une défense qui est intéressante autour de Bonucci. Ils ont des arguments. Ils sont dans la discussion, comme on dit, quoi. Mais moi, je pense que ça va être extrêmement homogène. Mais je pense que dans l'esprit de beaucoup, le favori, c'est la France.
Laurent, pour revenir sur l'Italie, on peut quand même globalement, me semble-t-il, se réjouir de la qualification de la Squadra Azzurra et de son retour. Parce que très sincèrement, l'un des plus grands déchirements, ça a été ce match. Alors, ils l'ont perdu sur une confrontation aller-retour sans aucun problème face à la Suède.
Ils n'ont pas volé leur victoire.
Non, bien sûr. Mais l'absence de l'Italie au Mondial, c'était quand même un truc un peu improbable. Hors du temps et difficile à vivre. Donc moi, je suis, à titre personnel, extrêmement ravi de leur retour. Après, j'ai des réserves.
Sauf s'ils nous éliminent.
Non, même pas. Parce
qu'ils savent faire.
Pourquoi pas? Parce que c'est quand même un euro, une Coupe du Monde, c'est avec l'Italie que ça se dispute. Alors effectivement, il n'y a pas d'attaquant de
renommée
mondiale. En même temps, Mancini a un côté un peu laborantin. Il est capable de faire jouer les joueurs à des postes qui ne sont pas forcément les leurs, des choses pas évidentes. Il se passe certainement quelque chose en Italie et c'est bien, tant mieux. Franchement, tant mieux. Je crois que
Laurent Jaoui a envie de faire copain-copain avec son traiteur italien.
J'ai quand même l'impression.
C'est vrai que Mancini, c'est pas le premier venu. Mais il peut battre le jeu de cartes dans tous les sens. Et si t'as pas l'as, t'as pas l'as. Il y a que si vous prenez les défenseurs, bon d'accord, c'est parmi les meilleurs du monde. Il y a rien à même le gardien sans doute. Mais par exemple, vous prenez les milieux. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Vous prenez les milieux et les attaquants. Ils n'ont que deux joueurs qui sont dans des gros clubs, sont Verratti et Jorginho à Chelsea. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est quand même des mecs qui sont un petit peu dans l'antichambre. Alors, est-ce qu'un mec peut exploser?
Insigné de Napoli.
Ouais, mais enfin.
Quand je parle
de clubs pouvant gagner la Ligue des Champions. On va quand même.
Est-ce que les Croates avaient des joueurs à tous les postes dans des clubs qui pouvaient gagner la Ligue des Champions? T'as vu le tournoi qu'ils ont fait?
Ils avaient
Rebic, par exemple, il a été fantastique. Il joue à Francfort.
Ils avaient.
Mais ils ont surtout des joueurs qui émergent.
Alors les Croates, ils avaient Mandzukic qui joue dans un très gros club. Ils avaient Rakitic qui a été champion d'Europe. Ils avaient Modric qui a été 4 fois champion d'Europe. Ils avaient des joueurs de très très haut niveau.
Ils avaient Perisic.
Qui en parlait dans le grand public? qui parlait de Perisic avant la Coupe du Monde dans le grand public?
Non mais de Mandzukic, Nabil, ils ont un ballon d'or, on peut pas dire qu'ils ont
Sensi, c'est des joueurs qui sont amenés à devenir parmi les meilleurs joueurs européens.
Barella,
ouais, il joue à Cagliari, Sensi à l'Inter de Milan. Je te conseille d'aller téléphoner à Antonio Conte, tu vas voir ce qu'il va t'en dire.
Alors, donc Barella rejoint l'Inter.
Il était à Cagliari.
Il était à Cagliari l'an dernier.
Donc, ils ont quand même des arguments. Et puis l'Italie, historiquement, ils sont souvent retrouvés avec des joueurs qui n'étaient pas forcément dans les meilleurs clubs au monde et qui faisaient le boulot. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de parler de Toto Schilacci ou d'autres. Je veux dire,
ce qui est sûr sur l'Italie, c'est que ils ont une capacité à exercer un dépassement de fonction de manière régulière quand l'enjeu s'élève. Voilà, on va dire ça comme ça.
Disons à maîtriser les ficelles
On l'avait vu à l'Euro 2016.
Ouais. On l'avait vu, pas qu'à l'Euro 2016, vu à l'Euro 2000. Enfin, on l'a vu souvent, la Coupe du Monde 82. Enfin, c'est un peu dans l'ADN de l'Italie. Mais ce dépassement de fonction, c'est pas toujours inintéressant. C'est bien aussi de voir que des joueurs qualifiés de challengers sont capables dans les grandes compétitions de devenir d'excellents compétiteurs.
Non, mais c'est pareil pour le Portugal. L'année dernière, ils gagnent l'Euro, reprend leur 11. Est-ce qu'il n'y a que des Cristiano Ronaldo?
Pour essayer d'éclaircir ce point, en fait, j'aurais dû définir le périmètre tout de suite. Le périmètre, c'est les clubs qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Voilà. Et je pense que Bernardo Silva est dans un club qui peut la gagner. Je pense qu'il y a quand même des joueurs au Portugal. Sans parler de Cristiano Ronaldo, il y a quand même des joueurs qui ont vocation très vite à être dans ces clubs-là. L'Italie, j'ai l'impression que c'est un peu plus pauvre. Alors après, c'est vrai qu'ils font un Euro 2016 admirable au fond sur la volonté, sur l'organisation, ils sont capables de s'étendre de marche. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça appartient pas aux grands joueurs? Je pense que si. Et honnêtement, chez les Italiens, je le cherche quand même. Alors après, je leur souhaite tout l'inverse. Mais arrive un moment sur une demi-finale, sur une finale, sur un quart, ça va appartenir à des gros clubs.
Du coup, si je vous écoute, on est sur un changement de génération, mais les mouches ont changé d'âne, pour reprendre une expression qui vient du rugby. Il y a quelques années, c'était l'Espagne et l'Allemagne qui étaient aux avant-postes en Europe. Je n'ai pas forcément entendu parler de ces équipes-là.
Mais l'Allemagne, moi, je les ai vus jouer avant-hier, de près, puisqu'ils ont joué en amical contre l'Argentine. Très franchement, je pèse mes mots, je sais ce que ça va faire. C'est une équipe de salon. C'est-à-dire que quand tout roule, c'est exceptionnel. Quand ils sont dans le sens du match, ils ont des joueurs énormes. On parle de Gnabry, on peut parler d'Arvets, ils ont des joueurs. Mais quand ils sont dans la difficulté, ça coince. Ils ont fait le coup contre les Pays-Bas deux fois. C'est-à-dire qu'il manque quand même au niveau du caractère. Eux, il leur manque quelque chose. C'est pas la première fois qu'on le constate. Et ils viennent quand même d'un désastre intersidéral lors du Mondial russe. Donc ils parlent quand même, me semble-t-il, d'un peu loin.
Et puis, au bout d'un moment, il faut un renouvellement dans le management aussi.
C'est peut-être long,
c'est un peu long pour Joachim Löw. Voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être passer à autre chose. Donc, évidemment qu'on ne peut pas ne pas considérer l'Allemagne parmi les favoris d'un championnat d'Europe. Évidemment, il suffit de regarder ce que font les joueurs individuellement dans leur championnat, et pas qu'en Bundesliga d'ailleurs, parce que les Allemands ils s'expatrient. Mais en termes de dynamique, on n'est pas obligé de placer l'Allemagne et l'Espagne pour revenir à votre question, Alban, on n'est pas obligé de placer l'Allemagne et l'Allemagne parmi les favoris évidents, mais encore une fois pour une histoire de dynamique. Il y a des nations, et je réinsiste sur les Belges, il y a des nations qui me semblent sur une très bonne dynamique.
Plus proche mais c'est ce que Nabil disait avec les Français, c'est-à-dire qu'ils savent sur ces événements, est-ce que c'est une question d'approche, et c'est une question de... Mais ça devient des bêtes de compétition. Ça, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que le sens d'un tournoi, c'est savoir faire émerger effectivement quelque chose de positif, de mettre le momentum dans ton camp, ça appartient pas à tout le monde quand même.
L'Allemagne qui s'est imposée 3-0 en Estonie il y a quelques instants, qui rejoint les Pays-Bas du coup en tête du groupe C, qui se rapproche de la qualification qui elle est acquise pour l'équipe de Pologne qui a battu la Macédoine du Nord, puisque c'est ainsi qu'il faut la dénommer désormais. Succès 2-1-0 et l'équipe de Pologne dans le groupe G qui caracole en tête avec 19 points et qui est donc la quatrième nation qualifiée pour ce championnat d'Europe. Rappelons quand même que l'équipe de France, championne du monde, partie évidemment des favoris de cet Euro. Ce sera du 12 juin au 12 juillet prochain.